France Culture.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans les midis d'été. Jusqu'à 12h30, puis après le journal jusqu'à 13h, nous vous proposons de cheminer en compagnie d'artistes, d'auteurs, d'autrices. La semaine prochaine, nous serons en direct du Festival d'Avignon. Mais aujourd'hui, nous allons, par la littérature, à Lyon. La colline qui travaille est le surnom que l'on donne dans cette ville à la Croix-Rousse. C'est aussi le titre d'un livre qui tisse un récit familial sur 4 générations et s'interroge sur la puissance romanesque de ce que certains nomment l'ordinaire, rattrapant au bord du gouffre de l'oubli des personnages partiels et précaires. Publié aux éditions Le Bruit du Monde, ce roman a reçu récemment le prix France Télévisions. Et son auteur, Philippe Manvy, est notre invité ce midi. Bonjour Philippe Manvy.
Bonjour Chloé Cambrelin.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en France en ce mois de juillet, mais vous vivez depuis une dizaine d'années à Montréal. Et je voudrais commencer avec une expression québécoise. Qu'est-ce qu'une famille tissée serrée?
Ça pourrait être effectivement une bonne définition de ma famille, c'est-à-dire c'est une famille où les liens de solidarité sont importants, où il y a une forte proximité, alors qui parfois engendre des frictions dans ce tissage-là, mais qui est aussi source d'histoire, je pense.
Alors en effet, on peut qualifier sans doute votre famille de tissée serrée, c'est un clin d'œil bien sûr cette expression, mais il est vrai qu'elle résonne assez bien avec votre livre qui nous plonge donc dans l'histoire de votre famille, avec au centre vos grands-parents maternels, René et Alice, lui typographe, elle tisseuse. Le premier titre auquel vous aviez pensé pour ce roman était Recoudre.
En effet, oui, parce qu'il m'est apparu assez vite que voilà, dans le processus d'écriture, cette métaphore du tissage revenait à la fois comme thème et puis comme façon d'enchaîner les chapitres. Donc Recoudre, ça me plaisait bien. Après, on pouvait craindre un roman sur l'univers médical, je sais pas, un truc un peu plus trash que ce que j'ai fait. Et puis, alors, mon éditeur québécois craignait que La colline qui travaille soit trop connue, pardon, en France. Et finalement, pas tant que ça. Donc c'est un titre qui reste mystérieux quand même pour certains lecteurs et qui s'y trouve écho.
J'écris pour que les êtres et les liens qui les unissent cessent de se distendre et de disparaître, pour recoudre des vies usées qui ne montrent plus que leur trame et menacent de se défaire, de s'effilocher, au point que leurs motifs deviendront indéchiffrables, écrivez-vous au début du livre. Alors il y a toute une part importante de cet ouvrage qui est une réflexion sur l'écriture. Pourquoi écrire sur sa famille? Nous allons en parler bien sûr, mais parlons d'abord du cadre de cette histoire familiale, Lyon, la Croix-Rousse donc. Bien que vous soyez né et que vous ayez grandi en Auvergne, Lyon, écrivez-vous, est au cœur de votre géographie mentale.
Oui, parce que donc c'est la ville de mes grands-parents maternels, Alice et René. Donc c'est une ville où j'allais souvent quand même enfant pour leur rendre visite. Le quartier de la Croix-Rousse notamment me fascinait. Alors, déjà par sa différence avec mon village d'origine, la ville, voilà, il y avait un petit peu d'aventure là-dedans, mais surtout parce que j'en pressentais les métamorphoses, c'est-à-dire que je voyais ce quartier déjà un petit peu gris, un petit peu abîmé dans les années 80, et j'en avais l'histoire plus glorieuse que mon grand-père me racontait, l'histoire des canuts, l'histoire des luttes sociales, l'histoire du tissage. Et donc, ce qui me fascinait, voilà, c'était déjà le passage du temps et la façon dont il marquait visiblement ces lieux-là.
Bien qu'extraordinaire par sa taille, en comparaison de mon village natal, Lyon m'offrait des repères simples. 2 fleuves, le Rhône et la Saône, qui traversaient la ville du nord au sud et se rejoignaient à la pointe de la Presqu'île. 2 collines, à l'est de la Saône, Fourvière. Au nord de la Presqu'île, la Croix-Rousse. 2 buttes jumelles et ennemies se faisant face. Celle qui prie et celle qui travaille. La première était presque entièrement occupée par l'église, avec ses couvents, ses établissements privés fréquentés par l'élite locale, et tout en haut, une basilique, chef-d'œuvre de lourdeur néo-byzantine, aussi inamovible que les certitudes conservatrices, et qui, soulignait malicieusement René, évoquait la silhouette d'un éléphant renversé. En face, sur les pentes de la Croix-Rousse, les hauts immeubles étaient d'anciens ateliers. La plupart avaient été construits au XIXe siècle pour abriter les métiers à tisser des célèbres canuts, ouvriers de la soie qui, à trois reprises, s'étaient révoltés contre les tarifs de misère que leur imposaient les négociants. Ces canuts ne correspondaient pas à l'image que je m'étais faite du prolétariat d'après Germinal. Propriétaires de leur métier à tisser, ils devaient avoir des connaissances techniques assez poussées pour les faire fonctionner, les réparer, les perfectionner au besoin. Éduqués, tenant leur propre journal et se réunissant régulièrement, ils n'avaient pas besoin qu'un chef venu d'ailleurs les secoue pour prendre conscience de l'injustice. Leurs revendications, exprimées haut et fort, menaçaient le pouvoir en place. En 1831, les canuts avaient même pris la mairie sur la presqu'île, le quartier des riches marchands. L'armée était donc intervenue et, par trois fois, avait réprimé l'insurrection dans le sang. À l'époque où je rendais visite à mes grands-parents, les canuts n'étaient plus qu'un nom, le titre d'un chapitre dans un livre d'histoire locale. On avait d'abord mis fin au travail à domicile pour regrouper les ouvriers, devenus des ouvrières, dans des ateliers où il était plus facile de les contrôler. C'est l'organisation qu'avait connue ma grand-mère, elle-même tisseuse. Puis, tout au long du XXe siècle, cette industrie avait périclité. La plupart des ateliers avaient fermé, avaient été délocalisés. Le travail de la soie relevait désormais du folklore, voire du marketing touristique. On vendait dans les boutiques lyonnaises des friandises en forme de coussins et des foulards made in China. Les canuts avaient pourtant laissé, à la Croix-Rousse, un peu de leur esprit rebelle. Le quartier ne se laissait pas si facilement maîtriser, avec ses rues tortueuses, étroites, en pente raide, et les traboules, où ma mère et ses amis s'étaient pris pour le club des cinq. Elles servaient à l'origine à transporter les rouleaux de tissu sans les mouiller, mais avaient aussi connu, au fil des siècles, d'autres usages. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles avaient permis à plus d'un résistant d'échapper aux coups de filet de la Gestapo. On disait aussi que des sociétés secrètes, plus ou moins inoffensives, s'y réunissaient encore. Cercles ésotériques, nostalgiques des Templiers, soi-disant Illuminati, apprentis alchimistes, anarchistes, blousons noirs, militants néofascistes. Oui, Lyon n'a pas peur de se contredire.
Un extrait lu par Oriane Delacroix de votre livre Philippe Manneville, La colline qui travaille. Alors vous poursuivez après ce passage en décrivant effectivement la transformation de ce quartier devenu très prisé. Les grands appartements de canuts coûtent désormais extrêmement cher. Là où les anciens habitants, à l'image de vos grands-parents, voyaient eux, voilà, c'est avec ces très hauts plafonds, des logements impossibles à chauffer.
Oui, pour eux, c'était un quartier qui était à la fois impossible à quitter, ils y étaient viscéralement attachés, et en même temps, ces appartements avec leurs 3 mètres de plafond pour abriter les métiers à tisser autrefois, inchauffables, les planchers en bois, pour eux, c'était pas hygiénique, donc il fallait recouvrir ça de linoléum. Donc c'est intéressant aussi, je trouve, parce qu'il y avait un usage sociologique des lieux qui a complètement évolué.
Les plafonds aussi, vous parlez des plafonds, voilà, les poutres qu'on cachait, en fait.
Exactement, on mettait des faux plafonds en pin par-dessus les poutres apparentes. Voilà, pour évidemment limiter la consommation de chauffage.
Ouais. Alors, cette question du temps qui passe, vous l'avez dit avant l'extrait, de ce qu'il emporte avec lui, vous en parlez très bien, elle est présente, cette question, comme un motif permanent. Le livre s'ouvre sur votre mère et sur le moment où elle comprend, où il lui est signifié qu'elle va devoir s'occuper de ses parents. Cet accouchement à l'envers, comme vous l'écrivez. Alice et René viennent habiter chez vous. Vous êtes adolescents, eux, ils sont déjà vieux. Il a fallu ce livre, en fait, pour que vous puissiez les voir autrement que vieux.
Oui, en effet, les événements particuliers de ma famille font que mes grands-parents ont eu ma mère assez tard, que mes parents m'ont eu à un âge assez à moyen, mais voilà, tout ça faisant que j'ai connu mes grands-parents déjà tous les deux à la retraite, très âgés, donc je les ai pas connus actifs, et je les ai surtout connus après une vie entière consacrée au travail, qui avait quand même beaucoup usé leur corps. Alors, dans le cas de mon grand-père, un peu moins son énergie, mais quand même. Donc effectivement, il y avait notamment pour ma grand-mère Alice, une sorte de frustration que j'éprouvais de ne pas connaître cette femme active, flamboyante qu'on me décrivait, et d'avoir d'elle la vision plutôt mélancolique, voire parfois presque dans une forme de dépression de cette femme âgée. Donc écrire le livre, c'est ça. C'était aussi une façon de les retrouver autrement, voire de les connaître telles que je ne les ai jamais connues.
Parce que lui, effectivement, quand bien même il a énormément travaillé et a eu notamment une enfance quand même difficile, vous le décrivez même tel que vous le voyez, vous, adolescent, quand même effectivement assez actif, il conduit très vite, il est très attaché à sa voiture, bon, voilà, il est sportif. Elle, effectivement, Alice, vous la décrivez comme une femme assise.
Oui, ce qu'elle était, par la force des choses et par cette usure que j'évoque, qui se voyait vraiment dans son corps. On voyait la cambrure de son dos, on voyait ses rhumatismes, ses articulations vraiment très noueuses. Et puis, dans le cas de mon grand-père, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que c'est cette énergie fondamentale qui fait que, déjà petit, je le voyais un peu comme un personnage de roman, c'est-à-dire comme un personnage un peu plus grand que la vie, quoi, un peu hors norme, un peu difficile à contenir. Voilà.
Elle, quand vous voyez des photos d'elle, jeune, justement, athlétique, vous dites qu'en fait, cette image-là de votre grand-mère est pour vous une fiction. Il faut rappeler qu'elle a commencé à travailler à 13 ans, comme tisseuse, avec ce métier très physique, de canu, donc qui, effectivement, mettait vraiment à l'épreuve les corps. Alors, vous remontez donc de ce côté-là, du côté de votre mère, jusqu'à vos arrière-grands-parents. La mère d'Alice, Eugénie, si petite et fragile à la naissance qu'on l'a crue morte. Et Tony, le père, qui travaille, comme le fera sa fille, dans un atelier de tissage à la Croix-Rousse. Il est mobilisé le 3 août 1914, alors que Eugénie est enceinte. Et ça n'est pas si courant, vous avez son journal de guerre.
Oui, ça fait partie des documents sur lesquels je me suis appuyé pour écrire. Donc, un journal de guerre qui est très détaillé sur les deux premières années, la guerre de mouvement, qui ensuite devient plus fragmentaire au moment où il est dans les tranchées, mais qui, en quelque sorte, est prolongé par sa correspondance clandestine, donc par les lettres qu'il fait passer par ses camarades rentrés en permission. Vraiment, ce document, je pense, c'est ce qui m'a permis de vivre la guerre de l'intérieur avec cet ancêtre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait que j'ai eu l'impression de vivre la guerre avec lui, parce que, notamment, dans cette guerre de mouvement, on a l'impression à un moment d'une errance qui rejoint, en fait, les images presque les plus hallucinatoires qu'on a dans Céline, dans Voyage au bout de la nuit. Et donc, on se dit, en fait, que la vision fantasmatique est peut-être ce qui était le plus proche de la réalité, parce qu'ils erraient dans la forêt vosgienne sans savoir où ils allaient, ils n'avaient pas d'objectif, ils ne savaient pas combien de temps ils allaient s'arrêter. Donc cette image de cauchemar, en fait, on l'a dans ce qu'il écrit. Elle est vraiment concrètement dans ces mots, déjà.
Et après le journal, effectivement, il y a les lettres à votre arrière-grand-mère qui sont assez violentes, qui sont pleines de colère.
Oui, parce que on voit bien qu'au fil du temps, l'espoir d'une victoire rapide, ça menuise de plus en plus, que la vie des tranchées est insupportable, et que donc dans le bataillon où il se trouve, cet arrière-grand-père, il y a des velléités de mutinerie, mais qui sont contenues par l'envoi de tirailleurs sénégalais. Donc il y a des passages que j'ai eu un peu de mal à transcrire, mais qui me semblent importants du point de vue historique, et puis aussi pour rendre compte du point auquel une guerre est déshumanisante, c'est-à-dire que mon arrière-grand-père voyait plus son ennemi dans les tirailleurs sénégalais qu'on leur avait envoyés pour les encadrer, que dans l'ennemi allemand qui était en face de lui. Et il y a des propos racistes, violents, et qui sont pris dans une sorte de logorée, ces lettres à ce moment-là deviennent vraiment extrêmement débordantes, et avec une orthographe qui se défait, il écrit dans tous les coins de la page, donc moi j'y ressentis une forme de folie, c'est-à-dire un écœurement qui va jusqu'à la folie à ce moment-là.
Et effectivement, vous le dites dans le livre, vous êtes posé la question de censurer certains passages, et finalement non.
Oui, d'autant plus que j'étais à l'époque dans le contexte québécois, et que il y a eu tout le débat de ce qu'on appelait dans les médias québécois le mot en haine, qui est dans les lettres de mon grand-père, et donc au Québec c'était particulièrement délicat pour moi de reproduire ces passages-là, mais en même temps il s'agit d'une citation et il s'agit de rendre compte des choses telles qu'elles étaient, quoi.
Alors cet arrière-grand-père reviendra de la guerre, il reviendra en colère, une colère qu'il conservera toute sa vie. Il reviendra aussi avec un bras en moins. Mais il reviendra du côté de votre grand-père, de la sens de votre grand-père. C'est extrêmement douloureux. Votre arrière-grand-mère, Louise, naît hors mariage. Elle est élevée par son grand-père à elle. Elle avait du patrimoine, mais il est brûlé par les oncles et tantes. Et son mari, Léopold, voilà, ment, ne rentre pas, joue ce qu'il reste de l'héritage au casino. Lui aussi part faire la guerre, mais de sa guerre à lui, vous ne savez et donc vous ne racontez rien. Et ça, c'est une question, Philippe Manneville, la manière dont vous décidez des blancs qui peuvent ou ne peuvent pas être comblés par la fiction.
C'est vrai que je me suis rendu compte en écrivant le livre qu'il fallait, pour que je puisse écrire un chapitre sur un personnage, en tout cas donner vie à un des personnages de ma famille, que j'ai suffisamment de documents et suffisamment de matériaux que j'appellerais sensible, c'est-à-dire qui me permettent de faire vivre la personne. Donc ça pouvait être du témoignage oral, des histoires rapportées par ma mère ou par mes grands-parents dans mon enfance, ça pouvait être ces fameuses lettres, ça pouvait être des photographies, parfois même une simple photographie pour mon arrière-grand-mère, Louise. J'ai pas grand-chose, mais il y a deux photos qui me permettent d'imaginer quand même, de l'imaginer. Dans le cas de cet arrière-grand-père Léopold, donc le mari de Louise, pas de photographie, une réputation familiale assez détestable, voilà, une sorte de légende noire sur ce personnage-là, qui faisait que j'avais du mal à l'humaniser, du mal à voir son humanité. Et donc je cherche des documents, je trouve rien, et un soir, en désespoir de cause à mon bureau, je me dis, bah tiens, je vais le googler, quoi, le chercher sur Google. Et là, je tombe sur son certificat de décès pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, excusez-moi.
Oui, justement pas.
Juste après, voilà. Ce qui est d'ailleurs tout le drame de sa pauvre femme, veuve. Voilà, cet homme-là est mort de la grippe espagnole quelques mois après la guerre, donc démobilisé, ne donnant pas droit à sa veuve à une pension de guerre. Donc, je peux pas raconter beaucoup plus de choses que ça. En même temps, il y a une espèce d'absurdité dans son destin. C'est-à-dire qu'il traverse la guerre, il y survit. Et la grippe espagnole le fauche juste après. Et en plus, entraîne toute sa famille dans une forme de précarité, parce qu'il y avait encore des enfants très jeunes. C'est ce qui fait que...
Ils étaient six.
L'aîné devait avoir à l'époque une quinzaine d'années. Mon grand-père a commencé à travailler à 13 ans à cause de ça, en fait. Sinon, il aurait peut-être pu attendre un tout petit peu.
Ouais. Non mort pour la France, c'est ce qui est écrit sur le certificat de décès. Alors, ça, effectivement, ça c'est un élément d'archive, en fait. Un certificat de décès. Mais, comme vous le dites, vous n'êtes pas dans une démarche généalogique, en fait. Vous n'avez pas couru les archives pour récupérer le plus possible, en remontant le plus loin possible. C'est pas ça votre idée?
Non, c'est pas ça. C'est pas un livre d'historien. Je serais bien incapable d'être historien. J'en ai pas la formation. Je suis pas, par exemple, allé aux archives départementales pour vraiment trouver des documents sûrs. Moi, ce qui m'a intéressé dans le document, c'est vraiment, voilà, sa dimension romanesque, sa dimension humaine. Et alors, en fait, une des choses qui m'a beaucoup inspiré, et sans prétendre produire des choses aussi fortes que ce qu'elle fait, mais voilà, le travail d'Arlette Farge sur l'archive, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comment l'archive, tout d'un coup, ressuscite des histoires et ressuscite des destins qui, sans ça, auraient sans doute été balayés par le vent de l'oubli. Enfin, voilà, donc, et donc, quand j'ai pas de documents, je ne cherche pas à combler. Je passe à autre chose,
ouais,
peut-être.
Enfin, vous ne cherchez pas à combler les faits, on va dire.
Oui.
Mais, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, vous imaginez. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses, quand on vous lit, qui relèvent du ressenti, des sentiments, de ce que se disent les personnages dans leur tête, dont on se dit que, nécessairement, vous les avez imaginés.
Oui, forcément. Et alors ça m'a posé problème, pas tant en l'écrivant, parce qu'au moment de l'écriture, je me suis donné le droit, dans un premier temps, de ne pas me censurer. Mais en relisant mon texte, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, tu attribues des pensées à ta grand-mère, à ton grand-père, tu n'étais pas là, tu décris des lieux qui vraisemblablement n'étaient pas tels que tu les imagines. Donc il y a une forme de mensonge là-dedans, voilà. Alors après, c'est tout la question du mentir vrai, quoi. C'est-à-dire du moment qu'on ment en disant qu'on ment, est-ce qu'on ment encore ou est-ce qu'on est plutôt dans le champ de la fiction? C'est là où j'espère me placer.
Des mensonges, ou en tout cas des choses imaginées qui qui sont nourris aussi, on l'imagine nous, et puis même on le lit un peu par vos propres lectures,
oui.
Y compris de romans, y compris de littérature du 19e, notamment pour tout ce qui concerne les très anciens.
Oui, et d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des allers-retours entre la fiction et ce qu'on pourrait appeler la vraie vie, dans le sens où, bien sûr, ce que j'imagine de mes grands-parents ou ancêtres est nourri par mes lectures, mais j'ai l'impression que dans certains cas aussi, leur comportement à eux pouvait être influencé par la littérature qu'ils lisaient ou par la littérature contemporaine. Enfin, je pense notamment à ma grand-mère Alice, qui était une grande lectrice d'Alexandre Dumas. Je crois que son goût pour le romanesque et son goût aussi pour une certaine élégance venait beaucoup de ses lectures. De son métier de tisseuse dans la soie, évidemment, mais elle avait une manière assez romanesque de se comporter aussi, je crois.
Et ça, c'est quelque chose d'assez présent, effectivement, dans tout le livre. Il y a sans arrêt des livres. Dans votre livre, il y a beaucoup Zola, mais pas seulement. Et cette question, effectivement, d'une vérité de la littérature, c'est-à-dire à quel moment, finalement, on saisit une essence des êtres et des choses dans la littérature, peut-être plus que dans la vraie vie.
Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est la grande force, notamment de Zola, que j'admire beaucoup, d'avoir saisi par ces livres, des phénomènes sociaux ou culturels qui peut-être n'étaient même pas encore formés. C'est-à-dire de leur avoir donné une forme écrite et tout d'un coup les avoir révélés à la société. Donc c'est aussi ce que dit Proust quand il dit que les écrivains sont des oculistes, c'est-à-dire qu'ils nous permettent de voir le réel tout d'un coup de manière beaucoup plus précise et aiguë. Donc je crois beaucoup ça. En tout cas, c'est ce qui fait que je suis un grand passionné de lecture. C'est que La littérature me rend le réel beaucoup plus praticable que le quotidien, on va dire.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons.
Les Canuts, Yves Montand, sur un texte écrit à la fin du 19e siècle par Aristide Briand. Alors cette chanson fait écho aux révoltes, insurrections des années qui ont précédé. Votre grand-mère n'a pas vécu cela, mais elle a connu le Front populaire et la bataille pour les congés payés menée dans son atelier par une jeune femme qui deviendra sa belle-sœur.
Absolument, oui. C'est je pense, le récit familial, pour moi, fondateur. C'est une chose qu'on racontait beaucoup quand j'étais petit déjà. Alors, je vais pas dire en détail comment, mais il se trouve que mes grands-parents se sont rencontrés, mariés, à cause des congés payés, ou grâce aux congés payés, plutôt. Ça serait plus juste. Et donc, moi, ça me fascinait, en fait, cette histoire-là. Alors, déjà, l'aventure elle-même, c'est-à-dire voilà, la conscience que, tout d'un coup, ces ouvriers avaient obtenu des droits fondamentaux, et puis le fait que c'est une incidence sur l'histoire intime, que les deux choses se croisent comme ça.
Voilà. Non, mais parce qu'on peut le dire, en fait, cette jeune femme, donc elle s'appelle Charlotte, c'est ça, qui est dans l'atelier, qui, elle, va être beaucoup plus politique que votre grand-mère, d'ailleurs. Oui, c'est elle un peu qui mène la chose. Ensuite, en fait, arrivent les premiers congés payés, et donc elles partent toutes les deux dans le sud de la France, à côté de Toulon. Et là, c'est... alors. C'est le choc de le sud, la Méditerranée, bon, voilà.
Oui, la première fois
qu'elle
voyait la mer l'une et l'autre.
Et sauf qu'au moment de rentrer, il y a plus d'argent.
Pas du tout. Non, voilà. Donc c'est assez cocasse parce qu'elles ont tout prévu, mais bon, à l'époque, elles ont 21 ans, l'une et l'autre, et donc elles n'ont pas prévu le voyage du retour. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que, étant marqué par ce souvenir, j'avais tendance à le romanisé quand j'étais petit et à m'imaginer que mon grand-père était arrivé dans sa voiture blanche à toute allure, avait descendu de Lyon jusqu'à Toulon, et en fait pas du tout, parce qu'il avait ni voiture ni permis à l'époque. Donc il a envoyé un bête mandat postal à sa sœur et à la copine de celle-ci. Mais bon, en même temps, aussi modeste qu'il soit, cet envoi a permis que Alice et René se rencontrent et se marient un an plus tard. Donc
voilà, parce qu'il a fallu aller lui rendre l'argent.
Exactement.
Et donc elle l'a rencontré à cette occasion. Alors votre grand-père, on parlait tout à l'heure des blancs qu'on bouche ou pas avec de la fiction. Votre grand-père, vous pourriez lui prêter une participation à un acte héroïque de la résistance, mais vous ne le faites pas.
Non, parce que j'ai aucune preuve. Alors, par contre, j'évoque l'acte lui-même dans le livre, qui est cette parution du Nouvelliste, donc le 31 décembre 1943, c'est-à-dire donc d'un journal collaborationniste qui avait été détourné par les imprimeurs et les ouvriers lyonnais, et donc ils avaient repris le titre du journal Collabo, mais le contenu était plein d'articles pro-résistance et très très critiques du maréchal Pétain, et c'était arrangé le matin du 31 décembre pour substituer leur journal au vrai. Donc voilà, et c'est très lyonnais ça, enfin, en tout cas c'est très guignol, c'est-à-dire fait de rire de l'occupant à son nez et à sa barbe. Donc je sais que mon grand-père avait un exemplaire de ce journal-là, je sais qu'il était déjà linotypiste à l'époque, mais voilà. Et je pense que pour le coup, il aurait détesté que je lui prête un acte héroïque qu'il n'ait pas commis, donc je m'en tiens au doute.
En tout cas, vos grands-parents ont accueilli caché pendant quelques temps chez eux un couple de résistants. Vous décrivez aussi votre grand-mère qui part à la campagne chez le lointain cousin acheter quelques légumes. Mais voilà, vous le dites, de ce côté-là, en tout cas concernant ces événements historiques-là, il y a chez vous, voilà, ni de récits d'actes extraordinaires, ni honteux. La guerre, pour eux, c'est principalement le manque et la faim.
C'est ça, c'est survivre en fait. Voilà, et avec des actes qui sont quand même courageux au passage, hein, puisque héberger un couple de résistants, ne serait-ce que pendant 3 semaines, c'était quand même un risque. Mais non, pour eux, c'était vraiment survivre, trouver des manières de se nourrir. Traverser cette période dont ils n'imaginaient pas la fin. Donc c'est ça.
Alors, ils sont pas éperdument amoureux, vous l'écrivez, mais ils auront une très belle relation pendant des décennies. À ce stade, et juste rapidement, il faut peut-être préciser qu'apparaît fugacement, et dans un passage assez drôle d'ailleurs, votre autre grand-mère, Jeanne.
Oui.
Assez drôle parce que vous partez en vacances avec les deux ensemble, les deux grand-mères, et qu'elles ne peuvent pas supporter. Mais ça n'est pas que drôle parce que cette mésentente, elle repose en réalité sur une différence sociale qui est pour vous un sujet encore aujourd'hui.
Oui, c'est une des entrées par lesquelles il me semblait que mon roman pouvait avoir une portée plus large que simplement pour ma famille, que je pouvais le proposer à d'autres lecteurs. C'est qu'en fait, d'une certaine façon, ma famille incarne deux France inconciliables. Du côté d'Alice, la France urbaine, ouvrière, de la Croix-Rousse, et de l'autre côté de ma grand-mère Jeanne, donc une France paysanne de la Haute-Loire, devenue plus bourgeoise, et donc des visions du monde complètement inconciliables qui, dans le cas de ces deux femmes, débouchaient sur une forme de mésentente allant jusqu'à l'hostilité, quoi, vraiment. Et c'était impossible de les faire cohabiter, comme je le raconte dans le texte. Ouais.
Un côté très à droite et l'autre très
exactement,
à gauche, c'est aussi ça que vous dites en termes de sociologie.
Et enfin, je comprenais pas d'où ça venait, mais l'écriture du livre m'a permis en partie de l'élucider, cette question-là.
Voilà qui annonce la suite de notre discussion, Philippe Manvie. La colline qui travaille, votre roman publié aux éditions Le Bruit du Monde. Nous vous retrouvons pour poursuivre l'échange autour de cet ouvrage après le journal qui arrive.